Gaëlle Ouellet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est notre rendez-vous annuel à nous aussi. Hein?
Oui, merci beaucoup de m'inviter encore.
Eh bien, merci à vous parce que vulgariser la thérapie génique, c'est pas nécessairement évident. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous parce que ça prend quelqu'un assez ferré en la matière pour pouvoir l'expliquer au grand public. La chose que j'ai cru comprendre, Gaëlle, c'est que lorsque l'on parle de thérapie génique, on doit parler au pluriel parce que c'est pas une approche précise, c'est plutôt une méthode générale. Il y a beaucoup de thérapies géniques.
Vous avez tout à fait raison. On peut dire que thérapie génique, c'est le nom là, général d'une thérapie qui, évidemment, implique les gènes, mais effectivement, il y a beaucoup de technologies ou de techniques qui peuvent être utilisées aujourd'hui.
Mm-hmm. Oui. C'est quoi la thérapie génique?
Bien, de façon générale, la thérapie génique, c'est une thérapie, donc traitement, qui vise à traiter une maladie par l'introduction d'un gène, donc un segment d'ADN dans les cellules ou les tissus de l'individu qui a la maladie. Donc, c'est fait pour les maladies dont la cause est un défaut dans un seul gène.
Ah.
Bon, ça, c'est la définition générale, là. Donc, on vise à remplacer le gène défectueux par le gène normal, mais avec des variations. On peut aussi même complémenter le gène défectueux par un gène fonctionnel. On peut même faire surexprimer un gène fonctionnel ou même interférer avec l'expression d'un gène non fonctionnel. Donc, ça, c'est des variations, mais en gros, là, c'est d'essayer de réparer la source du problème ou de la maladie, la source génétique.
Oui. On parlait tout à l'heure qu'il y a plusieurs techniques attribuées à la thérapie génique. Je sais qu'il y a des injections, entre autres choses. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres techniques?
Oui, effectivement, il y en a d'autres, mais la plus courante, effectivement, c'est l'injection, puis l'injection d'un virus. Hein. C'est depuis le début, c'est ça qu'on essaie. Là, on appelle ça un vecteur. On essaie de trouver quelque chose qui peut livrer, finalement, le gène dans les cellules de l'autre, là, l'humain malade, en fin de compte. Fait que c'est la plus utilisée, on peut dire. Donc, c'est un gène qu'on a modifié pour pas qu'elle soit, un virus qu'on a modifié pour pas qu'elle soit pathogène.
Mm-hmm.
Puis, on lui intègre le gène normal, si on veut. Puis là, on l'injecte dans des cellules, dans les tissus, des organes où on espère qu'elle va soit exprimer, le gène va être exprimé dans ces cellules-là, ou faire intégrer le gène normal dans l'ADN, dans le génome de la personne.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est la méthode la plus utilisée. L'autre chose qu'on essaie, mais que ça fonctionne moins bien, on travaille encore là-dessus, c'est d'introduire même des molécules d'ADN nues, là, sans le vecteur. Alors, mais effectivement, il y a d'autres techniques, là, plusieurs techniques qu'on peut utiliser. Ouais.
Gaëlle, lorsque l'on parle d'injecter un virus, j'imagine qu'il y a des risques de rejet.
Oui, exactement. C'est même qu'il y a d'autres risques puis obstacles. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'étais dans le début des années 80 dans un laboratoire. Là, j'étais biologiste moléculaire aux études. Puis pour nous, c'était, on faisait ce qu'on appelait à l'époque de la génie génétique. Puis on pensait que ça arriverait assez rapidement que la thérapie génique marcherait.
Mm-hmm.
Mais il y a eu des obstacles. D'abord, effectivement, comme c'est un virus, il peut y avoir une réponse immunitaire, hein, donc un rejet. Puis aussi, cette réponse-là peut diminuer l'efficacité de l'expression du gène normal qu'on veut. Ensuite, l'intégration, le virus va apporter qui intègre là, dans l'ADN de la personne avec la maladie, ça ne veut pas dire que ça va être stable, cette intégration-là. Ça dépend où ça se fait, comment, puis que des fois, on perd finalement le fameux gène normal intégré.
Mm-hmm.
L'autre chose avec les virus, les vecteurs viraux, c'est qu'il peut y avoir même de la toxicité, des réponses inflammatoires. Et ce qu'on a même vu, c'est ils peuvent s'insérer quelque part dans le génome humain où ils peuvent induire un gène de suppression de tumeur, donc causer des tumeurs, et ça,
Oh.
c'est arrivé. Puis, donc, il y a eu des périodes où ça a été difficile, la thérapie génique, où il y a même eu des moratoires, des arrêts, parce qu'il y a des gens dans les essais cliniques qui sont deux personnes, entre autres, qui sont décédées, dont un de cancer, et puis il y en a deux autres qui ont développé des cancers dans une étude à cause du vecteur viral où il s'est intégré. Alors, ça a été une période difficile pour la thérapie génique, mais c'est pour ça qu'on travaille toujours sur la transformation des virus vecteurs et d'autres façons de faire la thérapie génique.
Donc, c'est ce qui explique que dans les dernières années, oui, il y a eu des découvertes, mais ça peut être pas autant avancé qu'on l'aurait souhaité.
Bien, je dirais que oui, on avance quand même.
OK.
C'est qu'il y a eu ces obstacles-là, puis ça a arrêté même une période où on y travaillait moins, mais depuis 2006, je dirais que ça s'est reparti, puis il y a eu des bonnes nouvelles en 2012, en 2014, depuis 2012, beaucoup, là. En fait, une des choses, c'est qu'on a découvert une technique dont il est question beaucoup maintenant, dernièrement dans les médias, qu'on appelle le CRISPR,
Ouais.
C-R-I-S-P-R. Fait que c'est finalement une technique d'édition d'ADN. C'est comme d'édition de texte, là, où on peut, c'est en intégrant des gènes dans le vecteur qui vont, eux produire une enzyme qui va découper, éditer l'ADN chez la personne pour en faire une copie normale, pour la corriger ou même ajouter des bouts, en enlever des bouts, la corriger. C'est vraiment comme de l'édition de texte. Puis ça, c'est une méthode beaucoup plus simple, plus précise, plus rapide et moins coûteuse. Fait que c'est la grosse, grosse mode maintenant et ça a l'air on a de l'espoir là pour ça. Par contre, je dois le dire parce que celle qui a inventé, une chercheuse qui a participé à l'invention de cette technique-là, mais aussi des bémols, là, parce que, évidemment, quand on va jouer avec l'ADN d'une
Ouais.
personne, on a toujours peur de faire des choses qui pourraient aussi causer des problèmes.
Est-ce que la thérapie génique convient mieux sur certaines personnes? Je reviens à cet article paru dans le magazine Force il y a quelques années. La jeune femme dont je parlais tout à l'heure avait un mode de vie exemplaire, activité physique tous les jours, régime alimentaire très strict. Elle avait développé ces habitudes-là, puisque le diagnostic de sa maladie rare était tombé, très, très tôt, là. Elle avait même pas un an. Est-ce que pour d'autres personnes, qui auraient peut-être pas ces habitudes de vie là aussi saine, la thérapie génique serait moins efficace.
Je dirais pas que c'est ces facteurs-là qui ont un gros impact. Vous savez, de toute façon, c'est bien que cette jeune femme-là ait eu de bons résultats là, de son traitement, mais il y a quand même des limites. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'essais cliniques jusqu'à maintenant, puis chez certaines personnes, certaines maladies, ça fonctionne. Mais les maladies, c'est des maladies monogéniques qu'on appelle, hein, parce que pour l'instant, là, on vise juste à réparer un gène. Des maladies qui ont plusieurs gènes, là, on ne peut pas trop y toucher encore. Puis ces maladies-là, c'est vraiment la cause de la maladie, c'est le défaut dans le gène, là. Les autres facteurs ont moins d'importance. Ils ont de l'importance, les habitudes de vie, pour la qualité de vie de cette personne-là, comme n'importe qui. Puis, il y en a que c'est vrai que ça pourrait être plus important, dépendant des maladies. Par exemple, il y a des diètes spéciales, des fois. Mais ce que je dirais pour la thérapie comme telle, c'est vraiment la biologie qui est le plus important facteur, là, le mécanisme biologique de ces technologies-là qui fait que ça va bien fonctionner ou pas chez la personne. Par exemple, on avait de l'espoir que ça fonctionne pour des maladies là, multisystémiques qu'on guérirait, là, mais non, c'est rarement une guérison. Et puis, ça fonctionne mieux des maladies où on a une cible très précise. Par exemple, dans les dernières années, il y a eu des beaux résultats pour les maladies de la rétine.
Ah oui,
Parce
OK.
que là, c'est plus simple, on injecte à un endroit précis, c'est là qu'on veut corriger. Une bonne nouvelle, en 2012, il y a eu le premier médicament, Glybera qu'on appelle, de thérapie génique, qui a été approuvé en Europe pour l'hyperkylomicronémie.
Ah ben voilà, c'est de la maladie qui touche la jeune femme mentionnée tout à l'heure.
Oui, ouais. Ben voilà, c'est de cette maladie-là, effectivement. Puis ça a été une bonne nouvelle. Après tant d'années, une première acceptée en Europe. En fait, il y en avait déjà eu une autorisée en Chine puis une en Russie. Mais ça aussi, là, on cible un organe plus précis, fait que ça marche mieux. Mais pour d'autres maladies, il y a des essais chez les animaux, mais quand on arrive chez l'humain, ça fonctionne moins bien ou l'effet ne dure pas.
Ah oui. Donc, la personne retombe malade et retourne à sa maladie.
Oui, par exemple, même le Glybera, on pensait peut-être là, que c'est un traitement et voilà, c'est terminé. Et le problème aussi, c'est que ça coûte cher. C'est des nouvelles technologies biologiques, donc ça coûte cher. Mais on pensait un traitement comme ça, même s'il est coûteux, ça serait assez, la personne serait guérie, mais non. Comme même certaines thérapies pour la rétine, finalement, l'effet ne dure pas nécessairement tout le temps et ça baisse là, au cours des années. Puis là, on doit refaire des injections. Mm-hmm. Par contre, il y a une nouvelle technologie aussi, là, vous parliez de nouvelles découvertes. On a ce qu'on appelle maintenant la thérapie génique ex vivo. Ça a été appliqué à des maladies qu'on appelle, entre autres, les leucies. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cellules souches de la personne, les cellules souches du sang, on les retire de la personne, on fait la correction du gène par la thérapie génique et on les remet chez la personne. Alors là, il y a moins de rejets, hein? Puis c'est donc une combinaison de cellules souches puis thérapie génique. Et puis là, en tout cas, ça a l'air qu'après 2 ans, déjà 3 ans de ces essais-là chez quelques patients, que ça dure. Là. Fait qu'il y a peut-être, mais ça ne s'appliquerait pas à toutes les maladies, mais c'est des technologies prometteuses aussi.
On parle aussi que ça pourrait convenir dans les cas de maladies d'Alzheimer ou de Parkinson.
Oui, il y a eu des essais pour la maladie de Parkinson, mais encore là, c'est beaucoup plus complexe. Là, habituellement, et chez la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, il y a des sous-types qui sont vraiment génétiques, qui sont dus à un gène défectueux. Il y en a dans le Parkinson, puis il y en a la maladie d'Alzheimer. Fait que là aussi, on peut penser que ça pourrait fonctionner, les nouvelles technologies. Par contre, la majorité des gens qui ont le Parkinson et l'Alzheimer, c'est multifactoriel, plusieurs gènes, des facteurs environnementaux. Donc, c'est plus difficile à imaginer. Quoi qu'on peut aller cibler maintenant certains gènes puis faire des essais là, de au moins réduire l'impact. Là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus complexe qu'une maladie monogénique. Oui. Là. Oui.
Vous le disiez tout à l'heure, Gail Ouellet, ça coûte cher, ces thérapies-là. J'imagine que c'est un obstacle également à en voir énormément dans plusieurs secteurs, chez plusieurs patients. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre, peut-être pas tous les centres hospitaliers non plus. Est-ce que c'est financé, la thérapie génique?
Écoutez, c'est cher. C'est des technologies, puis d'autres nouvelles technologies comme ça, thérapeutiques, qui sont chères. Au Québec, ici, il y a des chercheurs qui demandent des installations, parce qu'il faut même des installations spéciales pour produire hein, ces virus-là, étant donné qu'on les injecte chez les humains. Ben puis, oui. Donc, on n'a pas encore ça ici, d'autres pays qui le demandent. La France sont assez avancés, ils ont des pôles technologiques où ils en font régulièrement, mais ça coûte cher, puis effectivement, c'est dommage pour les patients avec des maladies rares, parce que pas juste la thérapie génique, mais les autres thérapies qui sont souvent des innovations, qui sont souvent des nouvelles technologies biologiques, coûte cher, puis comme c'est un marché qui est petit, les personnes avec les maladies rares, Bien là, les payeurs, que ce soit le gouvernement ou que ce soit des assurances privées, ils trouvent ça coûteux. Donc, on a de la difficulté à faire accepter de rembourser ces médicaments-là. Et les gouvernements ont peur que, parce qu'il y a des développements technologiques toujours, c'est toujours encourageant. Moi, je vois ça toujours comme la carotte et le bâton, si on veut. Les patients qui voient toutes ces découvertes-là arriver. Et puis, finalement, ils ont difficulté d'avoir accès. Je dis toujours, qu'est-ce qui est pire? Est-ce que c'est de ne pas avoir de médicaments sur sa maladie ou d'en avoir un?
Mais de ne pas y avoir accès.
Exactement. Puis, c'est un dilemme, autant pour nos gouvernements, là, comme vous le voyez, qui essaient de diminuer là, leur budget, les assureurs qui voient ça venir aussi, les assureurs privés. Fait que c'est un dilemme, mais moi, en tant que scientifique, en plus, qui vois tous ces développements-là où on voit de l'espoir pour les gens, ben je trouve ça, je suis ambivalente, je trouve ça un peu découragé à certains moments quand on pense qu'ils n'auront pas accès.
Évidemment, ben on souhaite que dans les prochaines années, plus de personnes aient accès à la thérapie, aux thérapies géniques, on devrait dire, Gail Wallet. En terminant, je veux absolument parler de ce mois de février qui est important du côté du regroupement des Québécois des maladies orphelines, notamment 29 février, une journée rare, et c'est la journée des maladies orphelines. Vous préparez quoi pour ce mois-là, Gail Wallet?
Oui, effectivement, cette année, c'est la vraie journée rare, hein? À chaque 4 ans. Donc, ce qu'on vise, là, c'est notre objectif le plus grand, c'est de faire diffuser des messages à propos des maladies rares. On voit qu'ils sont de plus en plus connus, mais c'est ça qu'on veut faire. Il y a évidemment la journée même, on fait un salon de la rareté. Là, ça va être publicisé dans les prochains jours à l'Institut de recherche clinique de Montréal, où on est situé maintenant. Et les associations de patients de maladies rares vont pouvoir avoir des kiosques et des ceux qui n'ont pas d'association vont pouvoir afficher l'information sur leur maladie, puis les gens vont pouvoir venir leur poser des questions sur leur maladie, leur réalité. Fait que c'est ce qu'on vise, là. Puis il y a des petites activités un peu partout dans des écoles par des parents d'enfants avec des maladies rares.
Et pour en savoir davantage, on dirige les gens sur votre site rqmo.org. Et Alouette, merci beaucoup. Essayons de ne pas attendre encore un an avant de se reparler.
Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.